Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de bouteilles en verre, de consignes et de recyclage. Ah bon, bof, pensent certaines et certains d'entre vous. Pour juger l'intérêt de ce sujet, attendez voir, ou plutôt attendez d'écouter mon invitée, Sophie Graziani-Roth. Merci d'être venue au micro de Divergence à nous raconter votre Montpellier et plus encore. Vous êtes responsable de la communication et des partenariats et aussi en charge du développement des points de collecte de la société Hoc Consigne. Vous nous raconterez comment vous avez pris de la bouteille, pardon pour le jeu de mots, avec vos diplômes de Sciences Po Grenoble et de management des organismes publics et un parcours dans le marketing, la promotion, le développement commercial, l'événementiel dans la Seine-Saint-Denis, puis à Montpellier, successivement au domaine d'eau, puis pour l'Open Sud de France et enfin dans l'agence de communication, institutions et projets. Vous nous parlerez aussi de votre associée Anne-Claire Deguel, la gérante de la SCOP Hoc Consigne, qui a lui renoncé, nous le regrettons, à vous accompagner. Mais d'abord, Sophie Graziani-Roth, racontez-nous votre Montpellier. Depuis une dizaine d'années, vous avez vu la ville grandir. Que pensez-vous de son expansion, de ces changements, des mutations que notre ville a connues? Comment avez-vous vécu ces multiples changements de ces dernières années?
Bonjour Alain. Oui, donc effectivement, ça fait 10 ans que je suis à Montpellier. Mais en réalité, j'ai connu Montpellier il y a déjà presque 40 ans, puisque ma grand-mère y habitait. Donc je passais mes vacances à Montpellier.
D'accord.
Voilà.
Quand ta vie, elle n'a pas encore connu la croissance.
Exactement. Donc depuis, j'ai effectivement vu l'évolution. Donc pour moi qui suis à vélo depuis 5 ans, j'ai vu aussi cette transformation. Donc la ville, effectivement, évolue. Bien, c'est de plus en plus agréable de circuler à vélo. Donc, je sais que pour les automobilistes, c'est moins simple. Donc, avec beaucoup de belles évolutions. Et entre il y a 20 ans, 30 ans, je dirais, et aujourd'hui, effectivement, c'est plus du tout la même ville dont on parle.
Voilà. Alors, beaucoup le vivent bien, d'autres moins bien, qui sont un peu dépossédés. Alors, quels sont les lieux à Montpellier, qui figurent pas sur les cartes postales, bon, les lieux les plus emblématiques, les plus connus, que vous aimez bien, que vous êtes attaché, que vous conseillez à vos proches?
Effectivement, on est obligé de commencer par le centre historique, par l'Écusson. Ça, forcément, se perd dans les ruelles. Ensuite, je dirais, c'est vraiment toute la richesse culturelle. Donc, moi, j'aime bien sillonner toutes les expositions qui passent à Montpellier, les nombreux festivals, les différents lieux artistiques. Et après, je dirais, en termes de quartier... Je ne sais pas trop, il y a tellement d'ambiances différentes selon où on se trouve. J'aime beaucoup le nouveau quartier, je dirais vers l'altropisme, qui est en pleine mutation, vers le parc Montcalm. Je ne saurais pas choisir un quartier plutôt qu'un autre. Je trouve qu'il faut vraiment se perdre.
Alors, perdons-nous, incitez-vous. Alors, précisément, quand vous avez des amis ou des parents de passage, qu'est-ce que vous leur conseillez ou... Voilà, dans ces cas-là, on n'est pas rémunéré par l'office de tourisme, mais on fait office de guide officieux. Voilà, qu'est-ce que vous leur dites? Je ne sais pas quoi, un resto, un endroit sympa, pas très connu ou connu, peu importe.
Bon, en général, j'essaye d'avoir à la fois du centre historique, de l'arrière-pays et de la plage.
Voilà,
quand c'est des personnes qui viennent de
d'ailleurs. Les trois voilà. Grands paysages, un urbain et deux bon, qui ne le sont pas.
Exactement. Après, donc je vais éliminer l'arrière-pays et la plage, puisque là, on se situe à Montpellier.
Voilà, la métropole, déjà, va bien au-delà de Montpellier intramuros. Donc, on peut porter nos pas au-delà du centre-ville historique.
Donc, je vous dis, effectivement, donc on va forcément au musée Fabre, au pavillon populaire, maintenant au Moco, à la Panacée. Voilà, niveau culturel. Après, en termes... de bar, il suffit de se poser sur n'importe quelle place de Montpellier, la Canourgue, la place Jean Jaurès. Donc ça, c'est le Pérou aussi, selon aussi maintenant les événements qui s'y passent, qui commence à y avoir de la vie sur la place du Pérou. Donc c'est agréable de découvrir les arceaux depuis la place du Pérou. En termes de restaurants, ça dépend ce qu'on souhaite. Bon. Ce qui est chouette, c'est qu'on a toutes les facettes. On a à la fois des petits restaurants et des restaurants étoilés.
À chacun de dénicher ce qui peut lui convenir. Et puis, dernière question. Selon vous, quels mots traduisent un peu le style de Montpellier, cette manière particulière qu'a Montpellier d'être une ville ? Qu'est-ce qui la distingue d'autres métropoles ? Bon, un sujet d'ailleurs, je l'indique, qui ne nous est pas étranger en raison de votre expérience dans la communication et notamment dans la communication institutionnelle. Voilà. S'il y avait à donner quelques mots, là, bon, comme ça, tout à trac, à froid, là, et qui donne un peu le Montpellier touch. Quoi.
Bah, c'est peut-être parce que Montpellier vise à être capitale culturelle, ça Montpellier capitale culturelle, que je dirais ça, mais je trouve que c'est une ville qui est vivante, donc de part aussi par sa population, de beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de richesses culturelles, artistiques, de street artistes aussi, et je trouve que c'est une ville qui se réinvente et qui s'invente en permanence, qui est prête à bousculer les codes.
Ouais, dans un renouvellement, une espèce d'effervescence.
Oui, exactement. C'est une ville de taille moyenne et qui ose l'innovation dans tous les secteurs d'activité. Moi, je le vois, on va évidemment parler de consigne des bouteilles en verre, mais c'est une ville qui s'engage vraiment dans des vraies questions actuelles, questions de société, et qui accepte de sortir des sentiers battus, en fait.
Très bien. Bon, mais voilà, laissons les auditeurs prendre le chemin que vous esquissez. Alors, revenons donc aux consignes. Sophie Grazinéron, qu'est-ce qui vous a conduit en 2020, sauf erreur, à prendre cette nouvelle voie qui pourrait paraître inattendue, là, une envie d'une activité différente, une rencontre, il y a une espèce de déclic dont j'imagine qu'il a une part personnelle, une part professionnelle.
Mais effectivement, plusieurs raisons. Déjà, j'arrivais à presque 20 ans d'expérience. J'avais une expérience assez riche déjà dans le domaine du marketing, de la communication et l'événementiel. Et je dirais que j'avais à la fois un CV assez rempli, assez intéressant, et je pouvais ouvrir d'autres voies. Peut-être que c'était aussi l'approche de la quarantaine qui faisait que je me posais des questions personnelles. L'arrivée aussi de mes enfants, sans doute, où j'étais personnellement dans un cheminement personnel, je dirais, en réduction des déchets, en réduire mon impact sur l'environnement, etc. Je pense que c'est tout ça qui a fait que j'avais deux choix. Soit continuer à aller vers des boulots lucratifs, avec élargir mon CV, etc. Oui,
dans la même veine, dans la même trajectoire.
J'aurais pu continuer en agence de communication, dans l'événementiel ou autre. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve... J'aimais vraiment beaucoup mon travail, et c'est toujours le cas, mais j'avais envie d'aller vers des choses, des valeurs, je dirais, qui m'étaient personnellement plus proches, et que je me disais que mes compétences pouvaient être utiles, sans doute moins lucratives directement pour moi.
Dans d'autres domaines.
Et c'était finalement le moment aussi d'apporter ma pierre à l'édifice collectif. C'était vraiment une mission d'intérêt général que je voulais, dans laquelle je voulais me lancer. Donc effectivement, j'ai rencontré à ce moment-là une personne qui avait créé l'association Hoc Consigne, qui s'appelait Brice, qui avait créé une association, et pendant quelques mois, je l'ai aidé bénévolement.
Donc ça, c'était la préfiguration de la société actuelle.
Exactement. Et à l'époque, je travaillais encore en agence de communication, je faisais en parallèle ce travail bénévole. Cette association a été un peu stoppée pendant quelques mois, et j'en ai parlé autour de moi, parce qu'il fallait que quelqu'un la reprenne. Moi, je ne me sentais pas capable, ou j'avais l'envie, ou la légitimité peut-être, à reprendre seule cette association. En revanche, j'avais envie qu'elle prospère et que d'autres s'en emparent. Donc, de fil en aiguille, j'ai parlé d'Hoc Consigne autour de moi, à des amis. Et c'est arrivé dans les mains donc, d'Anne-Claire, de Gaëlle. Anne-Claire revenait de l'étranger. Anne-Claire est ingénieure agronome. Elle a travaillé une quinzaine d'années en développement de filières agricoles en Asie, surtout.
Oui, brillant parcours, hein.
Oui.
Bhoutan, au Vietnam... au Myanmar, etc.
Myanmar, bien sûr. Ouais, effectivement,
donc,
Myanmar à la fin.
Donc, une solide expérience d'accompagnement de grands projets agricoles. Hein.
Vraiment, développement de filières. C'était un monde qu'elle connaissait, et développement de filières et le monde agricole. Et en arrivant en France, Anne-Claire avait vraiment envie de développer un projet qui était vraiment ancré sur le territoire où elle s'installait, donc Montpellier. Donc, premièrement, ancré sur le territoire, proche de la nature, proche des paysans, comme on peut dire, et un projet à impact social et environnemental fort.
D'accord.
Donc notre envie convergeait.
Vos objectifs professionnels, et donc on l'a bien vu avec leur part personnelle, ont coïncidé, ont convergé très vite. Là.
Oui. Et moi, au démarrage du projet, du coup, j'ai continué à aider sans savoir vraiment si mon profil, je dirais marketing communication, s'il avait vraiment un intérêt à être de manière permanente dans le projet.
D'accord. S'il avait sa place.
Exactement.
Voilà, dans une structure qui était peu légère, en tout cas au départ. Quoi.
Où tout était à construire, en fait. Il fallait vraiment qu'on voit si c'était une bonne chose de se lancer dans cette aventure et est-ce que mon profil était utile. Donc, j'ai aidé comme ça quelques mois. Par chance, le confinement de mars 2020
a été bénéfique.
Très bénéfique.
Parce que vous avez donné du temps pour réfléchir, préparer, d'accord.
Exactement.
C'est intéressant parce que beaucoup d'entreprises ont été obligées de lever le pied. Donc, ça n'a pas été simple, y compris pour certaines,
oui.
dont le devenir a été mis en péril. Et là, bon, la phase de préparation, de réflexion, de recherche... c'est fait en partie pendant le Covid de 2020. Donc.
Exactement. Bah déjà, on a repris l'association 2 jours avant le premier confinement, mars 2020, 2 jours avant. Ensuite, block-out, tout fermé. Moi, à titre personnel, mes activités professionnelles se sont un peu arrêtées net dans la communication mars 2020.
Oui, bien sûr.
Et du coup, très bien. Ça m'a laissé du temps pour développer plein de choses, dont Hoc Consigne. J'ai aussi développé une AMAP en même temps sur Castelnau. Voilà. Et Hoc Consigne, effectivement, on a eu le temps de lancer toute l'étude de faisabilité pendant cette période où les gens étaient du coup finalement assez disponibles. Et donc, on a fait l'étude de marché, l'étude de faisabilité pendant
ces... Les aspects techniques, financiers.
Exactement.
Pour être d'attaque au moment où le pas était franchi. Et le pas, vous l'avez franchi quand, donc ?
Alors, 2020, c'était vraiment étude de faisabilité sur toute l'année. Donc, on était déjà incubé chez Alter Incube. Et je dirais que c'était vraiment l'année charnière où il fallait qu'on voit si on avait le bon projet dans nos esprits, dans notre tête. Et on a répondu à un AMI de l'ADEME et Citeo à l'époque, donc en ayant fait notre étude en interne. Et on s'était dit, soit on est lauréat de ce projet, ça veut dire qu'on est la bonne équipe, le bon projet et tout va bien, soit ce n'est pas le cas, on est recalé, dans ce cas-là, on arrête tout.
D'accord, donc ça a été le test. Pas le test en vraie grandeur, mais en tout cas l'épreuve de la solidité, de la pertinence du projet.
Exactement, d'accord. Et de l'équipe qui portait le projet, oui.
D'accord. Et après, donc, les choses se sont précisées ensuite dans les mois qui ont suivi. Alors, précisément, donc, vous l'avez dit, le démarrage, c'était sous forme d'association, une association qui existait préalablement, qui a été reprise. Et puis, la décision de choisir le statut de SCOP, de société coopérative de production, quand vous avez démarré complètement. Pourquoi la SCOP, là, dans quel objectif ou ambition ou valeur, peut-être ?
Oui, vraiment, c'était un peu tout ça. C'est arrivé assez naturellement. On aurait pu être une SIC. Une SIC, donc c'est d'intérêt collectif, une société coopérative d'intérêt collectif, ça aurait été assez logique parce qu'il y a de nombreuses parties prenantes. On aurait pu avoir des collèges, producteurs, consommateurs, magasins, collectivités locales. Nous, il nous a semblé que c'était déjà une très grosse aventure. C'est une grosse montagne qui était devant nous.
Oui, parce qu'il y a une part d'inconnu et de risque.
Exactement, et puis toute une filière à recréer, vraiment. Enfin, c'est tous les maillons de la chaîne. Ex nihilo, vraiment. Vraiment. Plus la partie lavage, usine de lavage à recréer, puisqu'il n'y avait plus d'usine de lavage dans le sud de la France. Donc tout ça était et est toujours finalement une mission très importante qu'on s'est fixée.
J'ai mis la barre haut là, parce que... Ben, oui. Est-ce que c'était... On va revenir ensuite sur le trajectoire. Est-ce que c'était une impératif, c'était un projet complet, en définitive, hein?
C'est-à-dire reconstituer
une filière. En donc fait, du coup, le A à Z de la filière était à organiser et à penser.
Complètement. Malheureusement pour nous, c'était soit toute la filière, soit rien. Parce qu'on ne peut pas juste prendre un petit bout de la chaîne. S'il n'y a pas de producteurs engagés dans la filière, on ne peut pas collecter de bouteilles. S'il n'y a pas de magasin, point de collecte, pareil. S'il n'y a pas d'usine de lavage, eh ben, il faut aller laver à des centaines de kilomètres d'ici. Donc le bilan environnemental est moins pertinent. Tout ça a fait que, dès le début, on savait deux choses, que ça devait être une filière complète, donc tous les maillons de la chaîne à sensibiliser, et deuxièmement, un projet à l'échelle industrielle. Voilà.
Oui, c'est ça.
Forcément, c'est pas un projet artisanal.
Voilà, c'est pas dans sa dimension, mais surtout dans ses éléments constitutifs, on va les revoir, là, c'est bien un projet industriel.
Oui, vraiment. Oui. Donc, effectivement, c'est pas une mince affaire, c'était une mission très importante. Donc, on était trois cofondatrice de la
Alors,
SCOP.
On peut citer la troisième personne qui est partie, mais j'ai apparemment sans contentieux, là, il y a quelques temps.
Harmonie Cordier, voilà. Oui, tout à fait, qui est en retrait du projet. Harmonie, c'était le profil logistique dans notre trio. Donc, pendant plusieurs mois, même un an et demi, on a travaillé toutes les trois ensemble. Donc, c'est trio féminin pour recréer une filière et un projet industriel.
Alors,
c'est pas commun.
Donc, alors précisément, arrêtons-nous là-dessus sur le trio féminin. Aussi, ça vous distingue d'autres initiatives dans le monde économique et a fortiori dans le monde industriel. cette alliance entre trois femmes là, donc mm-hmm. et ben en plus ça a bien fonctionné parce que j'imagine l'effort à produire la réflexion, ça peut être excitant, mais c'était quand même avec le stress de l'inconnu, d'une prise de risque à tous égards, hein, sur l'entreprise bien sûr et sur les revenus que vous pouviez légitimement en attendre.
Oui, tout à fait. Bah, tout ça en même temps et c'est pas fini en fait. On est encore dans ce...
Dans la phase de même corps, mais voilà, la naissance est faite. Mais
voilà, ça fait trois ans.
Le bébé grandit.
Le bébé grandit, mais la montagne est encore très haute et il nous faut encore démultiplier nos forces. Il faut toujours avoir de l'énergie au quotidien et convaincre encore plus de monde d'agir. Donc oui, c'est pas rien. Nous, on aimait assez bien. Enfin, on aime bien ce côté féminin. Souvent, quand... Donc maintenant, on est beaucoup plus important. On est 10 personnes maintenant dans l'entreprise. Toujours grosse majorité féminine. Donc c'est toujours très drôle quand on voit nos visiteurs s'étonner.
Qui cherche le patron.
Exactement. Et c'était très classique. Même dans les jurys, on est passé devant, on a pitché plein de fois. Et à chaque fois, ça dénote en fait. Mais c'est donc.
Bon, ça c'est une des comment dire, une des caractéristiques, une des couleurs du projet.
Exactement.
Quoi. Donc ça le résume pas, mais ça donne quand même ce ton particulier.
Tout à fait.
Alors vous allez nous dire là, pour maintenant, on va rentrer dans le dur, les quatre phases de votre travail successives là, puis vous nous les indiquez. Après, on va les reprendre dans le détail pour qu'on comprenne et qu'on rentre dans la compréhension de votre métier ou de vos métiers. Alors, quatre phases successives, donc.
Donc, effectivement, donc, HOC consigne, à la fois, on accompagne des professionnels dans leur transition vers le réemploi. Donc, on accompagne des producteurs pour que leurs bouteilles puissent être réemployées.
Donc, des producteurs de vin, notamment.
De vin, des vignerons, des brasseurs, des producteurs de jus, de limonade, de kombucha, voilà. Pour que leurs bouteilles soient compatibles avec du lavage.
D'accord. On reviendra là-dessus.
Deuxième phase, on installe des points de collecte. Donc, essentiellement, à la fois chez des producteurs, mais aussi dans des magasins. Donc, des magasins deviennent points de collecte. Les consommateurs, les clients peuvent rapporter leurs bouteilles compatibles avec du lavage.
On y reviendra.
Dans ces points de collecte. Et troisième aspect opérationnel, HOC consigne va collecter du coup ces bouteilles, les amène à l'usine, les trie par modèle de bouteille, les lave, inspecte la qualité des bouteilles et ensuite les remet en circulation localement, donc sur un territoire d'environ 200 km autour de Montpellier.
D'accord.
Notre territoire d'intervention, c'est tout l'est de l'Occitanie.
D'accord, voilà. Alors, on s'y retrouve, là, on voit l'Hérault, le Gard,
le
Lozère peut-être.
Sud Lozère, voilà. Sud Aveyron, Aude et Pyrénées-Orientales.
Très bien. L'ancien Languedoc aussi.
Oui, tout à fait.
Alors, on va reprendre la première phase. Donc, il fallait trouver des gens qui fournissent des bouteilles, donc qui en utilisent beaucoup, et donc les gens qui vendent des produits alimentaires dans des bouteilles en verre.
Exactement.
C'est ça, hein.
Oui.
Alors, comment vous avez procédé, là? Bon, c'est un travail de prospection, de conviction, de...
Oui.
Ça n'a pas été très simple, j'imagine.
Bah, oui et
c'est
non.
C'est les nettes qui débarquent, là, bon, j'imagine, pas dans une cave coopérative ou chez un grand producteur.
En fait, ça a été un peu plus simple que ça. Au démarrage, quand on a fait l'étude de faisabilité, effectivement, on a pris notre téléphone, appelé des gros producteurs, savoir leur intérêt pour le sujet. Ce n'était pas si simple en 2020. On voyait qu'il y avait une prémisse d'intérêt au niveau impact environnemental.
Ça commençait, c'est-à-dire les esprits commençaient à bouger un peu.
Oui. Un peu. Disons que les vignerons, en particulier, avaient conscience qu'environ 40% de leur bilan carbone est lié à l'emballage. Donc déjà, ce n'est pas rien. Si on agit sur la bouteille, déjà, on a un impact environnemental très fort.
Oui, c'est ça, très mesurable et direct.
Donc c'est une première petite prise de une première prise de conscience importante, quand même, qui n'est pas rien. Impact environnemental. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Impact carbone. Et aussi limiter les ressources naturelles utilisées. C'est-à-dire, quand on lave... Je peux déjà préciser, quand l'ADEME a fait une étude, donc une ACV, une analyse de cycle de vie, le fait de laver une bouteille plutôt que la recycler, pour en refabriquer une nouvelle, ça utilise deux fois moins d'eau que le recyclage, cinq fois moins d'énergie, et c'est moins 77% d'émissions de CO2.
Alors le recyclage, c'est qu'on prend la bouteille,
on
la casse, hein, ça fait des monceaux de morceaux de verre qui sont retraités,
qui
etc.
sont chauffés, donc voilà. ce verre cassé est chauffé à 1500 degrés pendant 24 heures continues. Ensuite, on injecte du sable. En moyenne, c'est plus de 50% de sable dans une nouvelle bouteille. Ça, on le sait moins.
Au moment où la question des ressources en sable, me semble-t-il, se pose, puisqu'elle est beaucoup consommée pour le bâtiment, les infrastructures.
Tout à fait.
Donc, c'est une réponse, là aussi, à cette problématique de ressources en sable.
De sable, problématique d'eau, on en parle beaucoup en ce moment, bien sûr, problématique d'énergie et bilan carbone. Donc, c'est vraiment, ça coche...
Donc, c'est plus, là.
Plus.
D'accord.
Vraiment, c'est une évidence. En fait, nous, la consigne, ce n'est pas un retour en arrière, c'est un retour au bon sens. En fait, c'est du bon sens. Quand on regarde objectivement, il faut aller absolument vers la consigne des bouteilles en verre. Quand on finit notre repas à la maison, on ne va pas casser nos assiettes. Pourquoi casser nos bouteilles ? C'est juste qu'on a pris une mauvaise habitude. On a tous entendu le plastique, c'est fantastique. Sauf qu'en réalité, le plastique, c'est nocif. Et les bouteilles en verre sont très solides. Donc, autant les laver plutôt que recycler. Mais par contre, il faut recycler. Quand on n'a pas le choix, il faut évidemment recycler.
Donc, on a bien vu qu'il fallait trouver des gens qui fournissent ces bouteilles déjà utilisées.
Oui.
Donc, installer des points de collecte.
Alors, pardon, juste sur les producteurs, c'est important. Donc, il s'est passé quelque chose l'été 2021. C'est qu'il y a eu une grosse pénurie de bouteilles.
Ah oui.
Et il y a
inhabituel.
Inhabituel. Lié au Covid l'année d'avant, en fait. Lié à la fermeture.
Ah, c'est-à-dire que voilà, les grands producteurs de verre, je ne sais pas quoi, BSN et les autres, j'imagine, ont moins produit.
Oua, du coup, Iberalia, voilà. Ont moins produit parce que les fours étaient en...
En arrêt, oui.
Pas complètement en arrêt, mais en tout cas vraiment ralenti pendant toutes les périodes Covid. Donc il y a eu des stocks, les stocks ont été réduits. Et donc ils ont puisé dans les stocks. Et donc il s'est retrouvé à un moment donné où il n'y avait plus assez de bouteilles en verre sur le marché.
Très bien.
Donc pénurie de bouteilles, premier point. Et du coup, lié à la pénurie, augmentation du prix des bouteilles neuves. Donc ces deux facteurs
C'est très important, mais parce que c'était des facteurs externes, mais ont un effet positif sur consigne.
Exactement. Malheureusement, pas positif pour les vignerons et les producteurs, mais très positif pour le développement de la consigne. Ça fait un double point positif. Donc impact environnemental positif et du coup, impact économique aussi pour les producteurs. Ça fait qu'on a eu beaucoup de sollicitations de producteurs, en particulier l'année dernière.
Courant 2022, donc.
Courant 2022, exactement, oui.
Alors, les points de collecte, donc il a fallu créer...
Oui.
Installé. Donc, un petit mot sur ces points de collecte. Hein. Bon, sur cette zone d'environ 150 km, c'est ça, autour de Montpellier.
C'est ça.
Comment avez-vous de points de collecte à ce jour ?
Alors, aujourd'hui, on a mis surtout l'accent sur les producteurs. Les points de collecte ont environ 70-80, je crois, aujourd'hui. Je n'ai pas le compte exact.
Sur la métropole de Montpellier elle-même, vous avez une idée du nombre, moi, à grand trait ?
Je pense qu'on doit être à une quinzaine ou une vingtaine.
D'accord.
Oui.
Donc, ça, c'est les points de collecte destinés aux professionnels, mais aussi aux particuliers.
Aux particuliers, complètement. Ouais. C'est-à-dire que c'est à la fois chez les producteurs eux-mêmes. Donc, si les producteurs vendent au domaine, par exemple, ou font des fêtes au domaine, ils sont point de collecte. Mais il y a ensuite les magasins, n'importe quel magasin qui vend des bouteilles en verre, de vin ou de jus, de bière, peut devenir un point de collecte. Ça peut aussi être les cafés, hôtels, restaurants.
D'accord. Donc vous avez recherché ces points de collecte, les labellisé en quelque sorte, hein, pour qu'ils soient partie prenante de la filière en train de se constituer.
Exactement. Bah, jusqu'à présent, je vous disais que sur les producteurs, on a fait peu de prospection. C'est vraiment, on a eu des personnes qui sont arrivées à nous. C'était un peu pareil sur les points de collecte, à vrai dire. On a beaucoup répondu aux sollicitations qui arrivaient. Le point de départ, je dirais, ça a été avec Biocoop, le réseau Biocoop. Parce qu'on a assez vite, je crois, début 2021, signé une charte avec Biocoop National.
D'accord. Ça a donné une base à la fois de partage d'objectifs
et
d'accès à un réseau. Quoi.
Un premier réseau de magasins très engagés. On était évidemment sur des valeurs, on était en phase sur les valeurs. Et des premiers magasins qui montraient l'exemple, finalement, sur le territoire. Donc, presque tous les Biocoop, du coup, du territoire sont devenus des points de collecte. D'accord. Et maintenant, évidemment, l'objectif, c'est qu'on élargisse la gamme des points de collecte, que ce ne soit pas que des magasins bio, progressivement, et qu'on ouvre les portes de bien d'autres réseaux, et demain, la grande distribution, et demain, les cafés, hôtels, restaurants,
donc,
dès que possible.
Ça fait du travail pour Sophie Graziani-Roth.
Tout à fait, on s'ennuie pas.
On avance, hein, parce que le temps file. Alors, troisième partie, l'usine, qui tourne depuis 2 mois. Donc, qui lave, où s'exerce un contrôle qualité pour assurer les bouteilles qui sont au bout de la chaîne, peuvent être réintroduites, réemployées. Donc là aussi, c'est un bon, outre qu'un investissement, et je dis une technicité des machines à trouver, à acheter. Donc ça, c'est pas en termes d'investissement, ça a été, j'imagine, la part la plus importante de l'entreprise en cours de création et de développement, oui.
Oui, les coûts majeurs, c'est effectivement la mise en place de l'usine. C'est environ 1 million d'euros d'investissement entre les machines, les travaux, etc. Donc, c'est le gros des coûts. Et ensuite, c'est les ressources humaines.
Voilà, des recrutements qui sont...
Voilà, exactement.
Une dizaine de salariés à ce jour, là, donc, aux consignes. Et si la production s'accroît, il y a d'autres recrutements qui pourraient intervenir dans les mois et années qui viennent.
Bien sûr. Déjà, on est devenu entreprise d'insertion. Donc, sur les 10 emplois, il y a 2 personnes en insertion aujourd'hui. Donc ça fait 3 mois qu'on a 2 premières personnes en contrat, donc en insertion pour plusieurs mois. Et sinon, 8 autres personnes. Voilà. Et donc sur l'usine, Vous voulez que je vous raconte
Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va avancer. Sur le dernier volet, bon, oui. Il y a des bouteilles certifiées de bonne qualité, lavées. Et ensuite, c'est la dernière partie, l'aval de la filière. Comment est-il organisé?
Alors, l'aval de la filière, c'est dès qu'on a des bouteilles lavées à revendre, globalement, on a des preneurs. On a aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est qu'on n'a pas encore assez de bouteilles à vendre, enfin à laver.
Parce que la demande est montée, on vous a expliqué pourquoi, des raisons de recomposition de ce secteur d'activité. Donc il y a un besoin avéré que vous ne pouvez pas complètement satisfaire, mais ça c'est une bonne nouvelle.
Oui, et puis aujourd'hui on a plus de 70 producteurs qui sont engagés dans le réemploi, producteurs locaux j'entends. Et ces producteurs-là ont mis sur le marché plus de 2 millions de bouteilles garanties réemployables, réemploi.
Elles reviennent chez eux. Voilà. Ou il y a d'autres clients que les gens qui ont fourni les bouteilles au départ?
Alors, nous, on privilégie nos clients. C'est-à-dire ceux qui sont engagés dans le réemploi, c'est eux qui doivent être prioritaires pour récupérer des bouteilles lavées, évidemment. Voilà. Aujourd'hui, on a collecté à peu près 100 000 bouteilles. Donc, vous voyez, ils ont mis sur le marché 2 millions de bouteilles, mais dans toute la France, et on n'en a finalement lavé que 100 000.
D'accord. Donc, il y a de la marge.
Il y a de la marge et une marge de progression.
Alors, deux questions pratiques, une un peu évoquée, mais on va y revenir pour nos auditrices et nos auditeurs. Comment on identifie qu'une bouteille est réemployable? Donc, j'ai des bouteilles chez moi, je ne les jette pas, je ne les mets même pas dans les centres dépôt volontaires qui peuvent exister. Comment j'identifie ces bouteilles réutilisables, réemployables?
Déjà, si vous avez fait vos courses dans un magasin qui est point de collecte, vous allez le repérer en rayon. Parce qu'on a mis plein d'éléments de visuels, de communication en rayon, tout un parcours consommateur. Donc, vous verrez. Après, sur les bouteilles, il existe un picto national du réemploi. Donc, c'est un picto qui a été créé par le réseau VRAC et réemploi.
Quel était-il là? Parce qu'on n'est pas à la télé ici.
Alors, ça ressemble à des flèches qui convergent au centre sur un dessin qui ressemble à une bouteille.
D'accord. Voilà. D'accord, on voit. D'accord.
Et il est soit noir, soit avec du vert dans ce dessin-là. Et c'est écrit normalement « Rapportez-moi dans un point de collecte ».
Et alors, une question corollaire, comment je peux connaître le point de collecte le plus proche de chez moi?
Vous allez sur le site internet, si vous êtes en Occitanie, vous allez sur oc-consigne.fr, point de collecte, il y a une carte qui vous montre où est votre point de collecte le plus proche.
Alors, vous l'avez...
Ensuite, dans toute la France, on fait partie d'un collectif qui s'appelle
France Consigne, voilà.
Et donc, France Consigne, c'est un collectif de tous les opérateurs en France, opérationnels comme nous. Et donc, à nous tous, on a plus de 800 magasins points de collecte et je crois plus de 500 producteurs engagés dans la filière, avec des bouteilles compatibles.
C'est un phénomène récent aussi, cette alliance entre professionnels comme vous. Est-ce que ça traduit, vous l'avez un peu évoqué, un regain, une redécouverte de la consigne que nous-mêmes, sinon nos parents, en tout cas que j'ai pu connaître moi-même vu mon grand âge, est-ce que ce retour-là, mais bien sûr dans des conditions pour les consommateurs comme différentes, bien sûr, vu le contexte que vous avez évoqué, d'enjeux liés au réemploi, quoi, hein. Donc, est-ce qu'il y a une mutation de la société en définitive que vous pouvez constater, qui était peut-être l'intuition et le travail préalable, l'étude de faisabilité que vous avez identifiée, mais qui se confirme?
Oui, tout à fait. Il y a une étude IFOP qui a été refaite là au printemps 2023, et une étude IFOP qui indique que 90% des Français, c'est énorme, sont pour le retour de la consigne.
Avec les petits efforts, ou en tout cas l'adaptation à prendre en compte pour que ça marche.
Alors, exactement.
Ça, c'est du déclaratif. Donc.
Exactement. Et entre la déclaration et l'action, il y a deux choses, il y a deux poids, deux mesures. Donc, il y a une annonce gouvernementale aussi en juin dernier qui a indiqué, la secrétaire d'État de l'époque avait indiqué que la consigne des bouteilles en verre pour réemploi, du coup, allait revoir le jour dans les 2 ans. Donc, nous, on a été ravis de cette déclaration et on espère qu'elle va être rapidement suivie des faits, et que ça va se généraliser.
Très bien. Alors, dernière question, puisque je l'avais prévu une, mais qui a déjà été traitée. Donc, vous n'avez aucune raison de regretter, je veux dire, d'avoir choisi cette voie il y a 3 ans, en infléchissant votre parcours professionnel sous cette forme.
Non, aucun regret. Et puis, comme vous pouvez l'imaginer, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas 2 journées pareilles. Et la tâche est encore très importante. Donc, on a besoin de continuer à sensibiliser les professionnels, le grand public, et que ça devienne vraiment une habitude de consommation. Je redis juste, c'est quand on n'a pas le choix, il faut évidemment recycler les bouteilles en verre. Mais en fait, de plus en plus, on a le choix et certaines peuvent être rapportées pour être lavées plutôt que recyclées.
Voilà, vous avez expliqué les bénéfices que cette filière apporte. Eh bien, merci Sophie Grazini-Roth et bon vent à vos consignes.
Merci Alain.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serrop.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Bah, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.